Midi 32 sur France Culture, pour le coup, je vais devoir faire amende honorable. Le journal Antoine Mercier, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. L'offensive de l'exécutif pour défendre sa politique fiscale. Interview à Libération du Premier ministre Édouard Philippe qui se dit ouvert à une hausse des taxes spécifiques sur certains biens de luxe qui sont désormais exclus du champ de l'impôt sur la fortune. Commentaire de Marie Viennot dans un instant. Le mystère persiste sur les motivations du tueur de Las Vegas. Sa petite amie est de retour aux États-Unis. Elle est entendue par le FBI pour tenter donc d'éclaircir le mobile de ce carnage qui a fait 58 morts et plus de 500 blessés. Suivi de l'enquête avec Éric Biegala. Les dirigeants catalans, toujours engagés dans un bras de fer sans précédent avec le gouvernement espagnol, ils annoncent une proclamation d'indépendance d'ici la fin de la semaine. Quant à la justice espagnole, elle lance ce matin des poursuites judiciaires donc contre le chef de la police catalane. Correspondance d'Annabelle Grelier à Barcelone, notre invité Fernando Carderera Soler, qui est l'ambassadeur d'Espagne à Paris. Le président turc Recep Tayyip Erdogan, attendu à Téhéran aujourd'hui, au moment où les relations entre l'Iran et la Turquie traversent une embellie, notamment en raison de leur convergence d'intérêts face à la question kurde. Analyse de Nabila Amel. La suite du procès d'Abdelkader Merah, poursuivi pour complicité des 7 assassinats terroristes commis par son frère. Compte rendu d'audience avec Florence Durm. Et dans la dernière partie de la grande table, Olivier Gesbert.
La quasi-suppression de l'impôt sur la fortune, un retour de l'histoire ou un pari sur l'avenir. On va en parler avec notre invité, l'économiste Jean-Marc Daniel, à partir de 12h55.
Emmanuel Macron est-il donc le président des riches? Depuis la présentation du budget la semaine dernière, le débat est lancé. Le gouvernement s'efforce de redresser cette image qui s'est partiellement imposée. Le président de la République multiplie les déplacements sur les thèmes sociaux et économiques. Et le Premier ministre donne donc cette interview à Libération ce matin pour tenter de défendre un budget qu'il qualifie d'équilibré. Marie Viennot, bonjour.
Bonjour.
Alors, on va vous entendre un petit instant, mais d'abord un petit écho de cette polémique. D'abord, Jean-Claude Mailly, secrétaire général de Force ouvrière, invité de France Inter, qui explique ce sentiment qu'Emmanuel Macron est plutôt considéré comme un président qui favorise les plus aisés.
C'est un sentiment qui est assez largement partagé aujourd'hui, parce que c'est l'accumulation de mesures telles que l'APL, l'augmentation de la CSG avec les retraités et les fonctionnaires qui vont morfler d'une manière ou d'une autre, plus les annonces sur l'ISF, ça donne un sentiment d'injustice, oui, qui est très fortement partagé.
Voilà Jean-Claude Mailly, et maintenant la réplique sur ce thème d'Arnaud Leroy, membre de la direction collégiale de La République En Marche, qui dénonçait sur France Info une volonté de caricaturer.
Qui est un sujet de perception peut-être, en tout cas qui est une volonté de caricaturer, ça c'est certain. Donc vous avez d'un côté Mélenchon, Hamon qui sont sur leur fonds de commerce, voilà, soyons clairs. Nous on a fait un budget efficace, juste, équilibré, financé, je pense que ça c'est important. Il y a des choix qui sont faits, donc ça c'est aussi important de le dire, c'est qu'on n'est pas dans la demi-mesure.
Des choix en faveur des riches.
Non, des choix en faveur de l'efficacité, de l'investissement, de l'économie.
L'ISF, par exemple.
L'ISF, on pouvait parler de l'ISF, moi je vous parle aussi de la...
Puisqu'on parle des riches.
Non mais je vous parle aussi de du RSA activité, moi la prime d'activité qui serait revalorisée. La question du 13e mois d'ici la fin du quinquennat pour quelqu'un qui est au SMIC, la question de l'allocation vieillesse, la question de l'allocation adulte handicapé. Donc ça, c'est pas des sujets qui concernent les riches, c'est des sujets qui concernent tous les Français, et les Français notamment les plus fragiles.
Voilà, élément de défense donc avec le député Arnaud Leroy. Marie Viennot, on va donc tenter peut-être de reprendre les chiffres. Est-ce qu'ils permettent quand même d'éclaircir mieux ce débat?
Écoutez, on va partir du chiffre qui a été donné par le Premier ministre dans Libération ce matin. Il parle de 7,5 milliards de pouvoir d'achat redistribués aux ménages. Donc c'est parce qu'il prend en compte donc la baisse de la taxe d'habitation, la fin de l'ISF en partie, et également la fin de l'impôt sur les plus-values mobilières. Et aussi, il ajoute à cela, en fait, à ces baisses de prélèvements, l'augmentation de certains minima sociaux. D'accord, mais alors, est-ce que ces hausses, est-ce qu'elles font le poids face aux 4,5 milliards de moindre pression fiscale sur, justement, les revenus les plus riches, c'est-à-dire la suppression de ceux qui payent l'ISF, valeur immobilière, et la nouvelle taxe sur les plus-values du capital? Alors, ce matin, une étude de la direction du Trésor, publiée par Les Échos, nous dit oui. Mais, en fait, oui et non, si on y regarde de plus près. Oui, parce que le niveau de vie des 10% les plus modestes, c'est-à-dire en dessous de 13 900 euros annuels, va augmenter de 2,9%, alors que dans les 20% des ménages les plus aisés, au-dessus de 49 300 euros annuels, le niveau de vie n'augmentera, lui, que de 0,3%. Donc on a 2,9 par rapport à 0,3. Mais à part, nous dit l'étude, pour ceux qui sont assujettis à l'impôt sur la fortune, sur le capital non immobilier et ne le seront plus. Alors déjà, ce à part est problématique, car c'est un à part qui coûte 1,3 milliard d'euros de recettes fiscales en moins, selon Bercy. Ensuite, il y a aussi le fait de donner des pourcentages. 2,9%, c'est plus que 0,3%, mais c'est 2,9% sur un tout petit revenu et 0,3% sur un plus gros. Donc en valeur, cela ne fait pas du tout le même effet pour le ménage. Enfin, il faut aussi tenir compte de ce qui augmente, les taxes sur le tabac, la fiscalité écologique, ce qui réduit donc l'augmentation du niveau de vie de moitié, toujours selon l'étude du Trésor. J'ajoute que pour être complet, il faudrait enfin mesurer ce que les baisses de dépenses vont avoir comme conséquence sur les services publics et l'impact sera différent en fonction des ménages. Cette étude est sans doute compliquée à faire, mais on peut d'ores et déjà dire que la fin des contrats aidés, par exemple, cela ne va pas toucher tous les ménages de la même façon.
Merci beaucoup Marie Viennot. Bon, on salue l'invité de la dernière partie de la Grande Table, Jean-Marc Daniel, qui vient d'arriver dans ce studio. Bon, je vous pose la question, mais juste rapidement, parce que ça sera vraiment l'un des thèmes de la dernière partie. Président des riches, Macron, selon vous, ou pas?
Non, je ne pense pas qu'il se positionne en président des riches. Il se positionne en président qu'il a défini juste par une formule. Il a dit la dépense publique est utilisée de façon palliative en ce moment, alors que je veux l'utiliser de façon constructive. Et donc, il a une vision où il utilise la fiscalité et la dépense, non pas pour penser les plaies de la société, mais pour préparer la croissance de demain. Alors, il réussira pas, mais il se positionne pas en termes riche-pauvre, mais plutôt en termes croissance ou stagnation.
Jean-Marc Daniel, merci. On vous retrouve donc tout à l'heure pour la dernière partie de la Grande Table et peut-être dans cette édition si vous voulez également réagir sur d'autres sujets. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le roi d'Espagne n'a pas vraiment cherché à jouer l'apaisement. Hier soir, il prononçait un discours d'une fermeté sans précédent, intervention donc de Felipe VI, qui déclare que l'État doit assurer l'ordre constitutionnel en Catalogne, qui affirme que le gouvernement régional a bafoué de façon répétée et délibérée la Constitution, et qui donc met en danger la stabilité de la Catalogne et de toute l'Espagne. À Barcelone, alors que les centaines de milliers de Catalans manifestaient encore hier contre les violences policières de dimanche, le chef de l'exécutif régional déclare à la BBC que la proclamation de l'indépendance n'est maintenant qu'une question de jours. Et puis la justice espagnole convoque, en vue de leur inculpation, le chef de la police catalane, parce qu'il est accusé de sédition, cadre d'enquête de sédition. Le mot est prononcé. Annabelle Grelier, bonjour.
Bonjour Antoine.
Alors il y a bien de part et d'autre des velléités comme ça de médiation, mais ce qui semble vraiment dominer, nous sommes trois jours après ce référendum, c'est que la fracturation qui est en cours a une grande force et pour l'instant ne peut pas être arrêtée.
Oui, ici c'est comme si le discours du roi hier soir avait en quelque sorte un peu plus creusé le fossé entre Madrid et Barcelone. Douche froide, déception, amertume, occasion ratée. Dans la presse régionale ce matin, les qualificatifs ne manquent pas. Et il faut dire que la position ferme de Felipe VI, ses accusations envers le gouvernement catalan et surtout aucune référence aux violences ni aux blessés de dimanche ne donne guère d'espoir donc à ceux qui souhaitaient la reprise du dialogue. Le chef de l'exécutif catalan, Carles Puigdemont, doit à son tour s'adresser officiellement à la région ce soir, sans doute pour réaffirmer ce qu'il a déjà dit à la presse britannique hier, c'est-à-dire que la proclamation de l'indépendance ne serait donc qu'une question de jour. Sur le plan politique, les indépendantistes catalans de la coalition et la CUP, la candidature d'unité populaire, qui tiennent la majorité au Parlement régional, réclament eux un débat dans l'Assemblée lundi et une déclaration d'indépendance dans la foulée. Quand on sait, comme vous l'avez dit, que la justice espagnole a convoqué, donc en vue d'une inculpation, le chef de la police catalane, Los Mossos d'Esquadra, presque qualifié de héros aujourd'hui à Barcelone, on peine à imaginer en effet une réconciliation possible aujourd'hui entre la Catalogne et l'Espagne. Peut-être que la majorité silencieuse devrait à son tour descendre dans la rue, s'interroger en tout cas ce matin un éditorialiste du journal El Periódico.
Annabelle Grelier, merci beaucoup. Vous étiez en direct de Barcelone. Nous saluons donc notre invité, Fernando Carderera Soler. Bonjour monsieur.
Bonjour monsieur, merci.
Ambassadeur d'Espagne à Paris. Est-ce que vous estimez a posteriori que la police espagnole est allée trop loin dans la violence pour empêcher le référendum dimanche?
D'abord, je dois clarifier quelque chose. La société catalane est une société plurielle. Catalan ne veut pas dire indépendantiste. L'indépendantisme est une option minoritaire en Catalogne.
Et, excusez-moi, pourquoi ne pas laisser faire un référendum alors, ou une consultation même sans...
Puisque c'est défendu par la loi, mais je continue ma réflexion. Il y a des dirigeants en Catalogne qui ont agi comme des illuminés, qui ont créé un climat malsain de crispation qui est maintenant présent en Catalogne et qui ont divisé et fracturé la société, comme l'a dit le roi d'Espagne. La situation est d'une gravité extrême puisqu'il s'agit d'un coup d'État au ralenti. Il faut être clair. Il y a eu un pacte démocratique après la mort de Franco qui a permis une transition politique exemplaire, qui a permis une coexistence exemplaire après cette mort.
Un coup d'État qui se passe à Barcelone, vous voulez dire à Barcelone, il y a un coup d'État des indépendantistes pour prendre le pouvoir.
Pour prendre le pouvoir et pour fracturer l'Espagne et pour finir avec la démocratie espagnole. Et c'est un coup qui est encore plus grave que celui de 81. Peut-être quelqu'un de vos auditeurs auront à la mémoire le coup qui avait été essayé de donner par un lieutenant-colonel de la Garde civile, Tejero. Et c'est une situation encore plus grave puisque ce sont des autorités régionales, donc gouvernement régional, qui sont en train de jouer le coup d'État. Et j'insiste, il faut être très clair aussi. Il s'agit de choisir entre le respect de la loi, la garantie des libertés et des droits fondamentaux, y compris ceux des Catalans, pas seulement des Espagnols, mais aussi des Catalans, ou imposer une volonté par la force, bafouant la loi, en ne respectant personne.
Est-ce que tout ce que vous nous dites là justifie les violences de dimanche ?
Il y a un climat d'harcèlement croissant par la part du gouvernement de la Catalogne qui a affecté des élus locaux, des maires par exemple, qui ont été signalés comme antipatriotes puisqu'ils ne voulaient pas jouer le jeu du dit référendum. Il y a eu des élus politiques qui ont été aussi nommés fascistes. Il y a des intellectuels, y compris par exemple Juan Manuel Serrat, une sorte de Brassens espagnol, auquel on a nommé fachon. Il y a eu un phénomène d'harcèlement contre les forces de sécurité eux-mêmes, puisqu'il y a aussi un phénomène de manipulation et d'incitation. La manipulation a été dénoncée par Journalistes sans frontières, qui a publié une communiqué la semaine dernière. Manipulation dans le sens d'essayer d'imposer un discours unique, tandis que j'insiste sur le fait que la Catalogne est une société plurielle. Il y a un phénomène d'incitation à la violence qui a été dénoncé par la plus importante et la plus prestigieuse association des droits civiques en Espagne, qui s'appelle Bastaya, qui a agi au Pays Basque, à l'époque terrible du Pays Basque, qui a reçu le prix Sakharov du Parlement européen. Ils ont dénoncé la manipulation, l'incitation et le harcèlement du gouvernement de la Catalogne.
D'accord, il y a quand même eu une violence du côté des policiers espagnols. On a manipulé. Est-ce que ce n'est pas une façon de renforcer les indépendantistes aussi?
On a manipulé des images. Il y a aussi un phénomène d'harcèlement contre les forces de sécurité espagnole. Je dois informer d'abord que si la police a agi, elle est agie sous ordre d'un juge qui a demandé d'arrêter le référendum. Alors, ces forces de sécurité agissent en tant que police judiciaire. L'ordre était donné à la police régionale dont M. Trapero, le chef, vient d'être inculpé par la police espagnole, par les juges et les procureurs. Cette force a 1700 000 policiers en Catalogne. C'est une police régionale qui forme part de l'État, mais qui est dirigée par le gouvernement catalan. Et cette police n'a pas voulu agir et elle a ignoré l'ordre d'un juge. Alors, c'est la police espagnole et la garde civile qui ont dû intervenir.
Mais là encore, vous en faites des héros. Et vous en faites des héros, puisque, effectivement, les personnes qui vont être interpellées par la justice vont être soutenues par la population. Vous allez accroître, en tout cas, le sentiment d'appartenance à cette région.
Écoutez, si vous avez quelqu'un qui bafoue la loi, qui ne respecte pas les ordres d'un juge, qu'allez-vous faire? Et spécialement s'il est une autorité qui est responsable des forces de police locales.
Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faut pas quand même essayer de réduire cette fracture d'une façon ou d'une autre? Comment en sortir?
Je voudrais finir aussi sur la question de la police et des forces de sécurité, policiers et guardia civile. L'action a été légitime, proportionnelle à la situation et adaptée à la situation. On ne parle pas du phénomène d'harcèlement et de violence contre ces forces de sécurité qui ont été bafouées, qui ont été aussi malmenées. Il y a eu pas mal de blessés parmi les polices et les forces de l'ordre. On a manipulé des images sur les blessés. Il y a eu des blessés, bien sûr, à cause de cette intervention de la police. Il y a des blessés dans toutes les interventions similaires.
Alors, en un mot, parce que là, on doit terminer. Est-ce que vous voyez, après tout ce que vous nous avez dit là, la possibilité de réengager un dialogue qui permette de sortir de cette crise, de ce face-à-face, de ce bras de fer? Est-ce qu'il faut une médiation? Comment vous imaginez une sortie de crise?
Non. La médiation n'a pas de lieu puisqu'il s'agit d'un problème qui doit être résolu en Espagne. Et la première chose qu'on leur doit demander, c'est ce qui a fait le roi d'Espagne hier, c'est de respecter les lois, la constitution espagnole, le fonctionnement des institutions et le respect de l'état des droits et de l'autonomie de la Catalogne, puisque ces dirigeants, ils ont mis en question, ils ont mis en péril l'autonomie même de la Catalogne. Et il y a un souhait de vivre en paix et liberté des millions et des millions d'Espagnols en Catalogne et en dehors de la Catalogne. Et la situation est devenue tellement grave puisqu'il y a une partie de... Bon, il y a un gouvernement qui a séquestré cette population catalane.
Si l'indépendance est proclamée, en un mot, cette semaine, à la fin de la semaine, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Madrid fait?
Si l'indépendance est proclamée, alors il faut respecter l'ordre du jour qui demande d'assurer l'ordre constitutionnel et le fonctionnement normal des institutions. Que ferait le président de la République en cas de déclaration unilatérale d'indépendance de la Corse?
Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur Fernando Cardereira, Soler. Effectivement, vous citez la Corse, mais l'AFP faisait la liste ce matin des provinces, des régions en Europe concernées. La Corse, l'Écosse, la Flandre, éventuellement le Pays Basque, la Nouvelle-Calédonie, la Lombardie-Vénitie, encore l'archipel danois de l'Atlantique Nord, les îles Féroé.
Je ne sais pas si je peux intervenir encore.
Oui, très rapidement.
Mais il faut que vos auditeurs sachent que le Parlement de la Catalogne a demandé le droit d'autodétermination pour la Catalogne Nord, c'est-à-dire pour vos Pyrénées orientales, pour une partie de la France.
Merci beaucoup en tout cas d'être venu en direct dans ce studio. La Commission européenne est de nouveau passée à l'offensive ce matin contre les montages fiscaux des géants américains d'Internet, avec dans son viseur les pratiques d'Amazon au Luxembourg, celles d'Apple en Irlande. L'exécutif européen a ordonné d'une part au Luxembourg de récupérer auprès d'Amazon 250 millions d'euros d'avantages fiscaux indus et d'autre part a assigné Dublin devant la Cour européenne de justice pour ne pas avoir récupéré 13 milliards d'euros auprès d'Apple. Jean-Marc Daniel, un tout petit mot là-dessus. Peut-être là, il y a un matraquage fiscal pour les... ou pas? Vous êtes d'accord sur la
Commission? Non, je suis d'accord avec l'action de la Commission européenne, parce que la Commission européenne ne s'appuie pas sur une dimension fiscale, mais sur une dimension de concurrence. Ce que critique la Commission européenne dans l'attitude de l'Irlande et du Luxembourg, c'est de tordre la concurrence. Et donc, ou bien on donne les mêmes avantages à tout le monde, et en cas de matraquage fiscal, on baisse les impôts de tout le monde, ou bien si on maintient des impôts, on fait payer à tout le monde les impôts en question. Ce qui est important, encore une fois, c'est que la Commission européenne résonne en termes non pas de fiscalité, mais de concurrence, et je crois que c'est très important.
Voilà, vous nous remettez à chaque fois les questions dans leur catégorie. Merci beaucoup Jean-Marc Daniel, on vous retrouve donc tout à l'heure. L'énigme des motivations du tireur de Las Vegas. Nous sommes deux jours après cette fusillade qui a fait une soixantaine de morts, 58 morts et plus de 500 blessés. Eh bien, cette énigme reste entière. La petite amie du tueur, qui s'appelle donc Stephen Paddock, de retour aujourd'hui aux États-Unis, elle est entendue par le FBI et évidemment, elle pourrait, en tout cas, on pourrait, grâce à son témoignage, éclaircir peut-être les mobiles de ce carnage, mais qui reste encore une fois extrêmement mystérieux. Éric Bégala.
Oui, Marie-Lou Danley, la compagne de Stephen Paddock, une Australienne originaire des Philippines et professionnelle dans l'industrie du jeu américain, vient tout juste de rentrer aux États-Unis. Elle devrait être entendue par les enquêteurs qui espèrent visiblement pouvoir ainsi avancer quant aux mobiles qui ont poussé Stephen Paddock à commettre ce massacre. Car pour le moment, les proches du tireur, notamment son frère, n'arrivent absolument pas à expliquer son geste. Ils le décrivent comme un retraité ayant fait fortune dans l'immobilier et il semble qu'il ait surtout occupé son temps dans les casinos de Vegas au cours des 10 dernières années, se présentant d'ailleurs volontiers comme un joueur professionnel. Il avait même récemment touché un jackpot de 20 000 $ dans le casino de Mesquite près de sa résidence principale. Toujours selon son frère, Stephen Paddock n'était pas non plus un fanat des armes, même s'il possédait plusieurs armes de poing, mais à sa connaissance, poursuit le frère, pas d'armes automatique. Et pourtant, les enquêteurs ont retrouvé dans la suite 135 de l'hôtel Mandalay Bay un véritable arsenal. L'armement nécessaire pour équiper un groupe de combat, notamment une douzaine d'armes semi-automatiques modifiées pour permettre le tir en rafale. Plusieurs de ces armes étaient équipées de lunettes de visée ou de trépieds, ce qui permet de stabiliser l'arme durant un tir en rafale. Stephen Paddock avait également équipé sa suite d'un circuit vidéo, 3 caméras qui lui permettaient de suivre les éventuelles avancées de la police dans les couloirs de l'hôtel jusqu'à sa suite 135. En tout, les enquêteurs ont retrouvé jusqu'à présent chez Stephen Paddock 43 armes, entre celles qui se trouvaient dans sa suite et celles détenues dans deux de ses propriétés. Certaines avaient été achetées plus d'un an auparavant. Mais le mobile de l'acte reste toujours aussi nébuleux. Pas de trace pour le moment du moindre écrit, de la moindre piste qui pourrait orienter les enquêteurs dans un sens ou dans un autre. Le mystère Paddock reste entier pour le moment.
Éric Bégala.
Midi 50 sur France Culture, la suite de votre journal. Antoine Mercier, le président Erdogan est arrivé ce matin à Téhéran pour une visite officielle d'une journée, signe de l'embellie diplomatique entre la Turquie
et l'Iran.
La Turquie et l'Iran, deux pays qui se sont vivement opposés, mais qui, grâce au référendum, si je puis dire, d'indépendance au Kurdistan irakien, se rapprochent leur position malgré une rivalité régionale qui persiste malgré tout. Nabila Amel.
Oui, la dernière visite du président turc en Iran remonte à 2015, donc on était déjà en plein conflit syrien. Dans ce conflit, la Turquie et l'Iran n'ont pas les mêmes protégés, mais cela n'a pas empêché des échanges de visites entre les responsables des deux pays. Aujourd'hui, Ankara et Téhéran resserrent un peu plus leurs liens et disent d'emblée vouloir tripler leurs échanges commerciaux à 30 milliards de dollars l'année prochaine. Depuis le 25 septembre, date du référendum au Kurdistan, les deux pays montrent, vous le disiez, qu'ils ont une raison commune de renforcer leurs liens. Ils ont chacun leur propre minorité kurde et non seulement ils n'acceptent pas, mais ils sont prêts à faire payer aux Kurdes d'Irak leur proclamation d'indépendance. Dès le lendemain, les armées iraniennes et turques s'étaient déployées et ont procédé à des manœuvres militaires à leurs frontières respectives avec le Kurdistan irakien. Pas plus tard qu'hier, lors d'une visite du chef d'état-major turc à Téhéran, son homologue iranien avait plaidé pour une coopération entre la Turquie et l'Iran, et l'Irak aussi, pour, je cite, « la stabilité et la sécurité dans la région » et pour contrer les actions sécessionnistes. Alors, on le voit, ce rapprochement est sous-tendu, bien sûr, par les événements au Kurdistan irakien, même si la Turquie sunnite et l'Iran chiite s'étaient déjà retrouvés récemment du même côté, en soutenant par exemple le Qatar en proie à un blocus imposé par d'autres pays du Golfe. Et puis sur le dossier syrien, il ne faut pas non plus négliger ce récent rapprochement entre la Russie, la Turquie et l'Iran pour créer une zone de désescalade dans la province d'Idlib.
Nabila Amel, merci beaucoup. Une question maintenant, les Russes ont-ils pu faire élire effectivement Donald Trump? Question qui peut légitimement se poser après les révélations de CNN hier, selon lesquelles les publicités à caractère politique achetées depuis la Russie sur Facebook ont principalement visé deux États, le Michigan et le Wisconsin, des deux États qui ont joué précisément un rôle important dans cette élection présidentielle remportée par Trump l'an dernier, des publicités qui ciblaient des catégories démographiques spécifiques. Emma Sarango.
Oui, ça nous donne désormais une vision un peu plus claire de ce mécanisme de l'ingérence supposée, présumée de la Russie dans l'élection américaine. Ces messages, on les appelle publicités. Pourquoi ? Parce que le principe est le même. On paye pour obtenir un espace sur un média. Sauf que, et c'est là toute la révolution des réseaux sociaux, la publicité est désormais démocratisée. Fini le temps où seul un géant comme L'Oréal pouvait se permettre de payer 10 000 euros pour un encart dans un journal. Non, aujourd'hui, sur Facebook, sur Twitter, on débourse quelques centimes à peine et on ne donne aucun détail sur son identité ni sur le contenu des futurs messages. En l'occurrence, l'annonceur est un mystérieux IRA pour Agence de Recherche sur Internet en anglais. C'est toutes les informations qu'avait Facebook, mais en remontant le fil, le réseau social s'est aperçu qu'il s'agissait bien d'une entité basée en Russie. Cet annonceur a donc acheté entre 2015 et 2017 3000 messages qui, pour la moitié d'entre eux, ont été facturés moins de 3 dollars. 3 dollars seulement pour que Facebook pousse le contenu, c'est-à-dire s'assure qu'il figure en bonne position sur les fils d'actualité d'un maximum d'utilisateurs et pas n'importe lesquels. Des habitants donc du Wisconsin, du Michigan, de swing state, deux états pivots dans l'élection et des personnes appartenant à une catégorie de population bien particulière. Et au total, selon Facebook, 10 millions de personnes aux États-Unis auront été touchées. 10 millions, c'est 3% de la population américaine. Alors, quelle responsabilité de Facebook ? Eh bien, le réseau social se défend d'être un média et donc d'avoir une quelconque responsabilité éditoriale. Mais clairement, l'enquête suscite le malaise. D'ailleurs, le groupe qui s'était jusqu'à présent fait discret communique de plus en plus sur le contenu de ses messages. Devant le Congrès américain, Facebook a même promis de mieux examiner à l'avenir les messages sponsorisé en recrutant 1000 salariés supplémentaires et surtout en exigeant davantage d'informations sur les annonceurs.
Emma Sarango, merci. On termine avec le procès d'Abdelkader Mera, poursuivi pour complicité des 7 assassinats commis par son frère. Troisième matinée d'audience ce matin après une audience mouvementée hier. C'est encore Florence Turm, un policier qui est venu déposer ce matin.
Oui, et c'est un témoin invisible qui dépose ce matin. Cet enquêteur de la police judiciaire a demandé à bénéficier de l'anonymisation prévue par la loi. Et Éric Dupont-Moretti, l'avocat d'Abdelkader Mera, ironise. Merci, monsieur l'officier de police judiciaire numéro 30. On n'apprendra rien de nouveau à la lumière de cette audition qui aura toutefois le mérite de nous replonger 5 ans en arrière dans les méandres et les tâtonnements de l'enquête, dans un contexte où le terrorisme n'occupe pas encore le devant de la scène en France. Les policiers explorent alors plusieurs hypothèses. Après le premier meurtre commis par Mera, un rendez-vous pour la vente d'une moto qui aurait mal tourné, la piste d'un militaire évincé de l'armée ou celle de l'extrême droite et d'un acte raciste. Ils vont passer au crible des dizaines de noms, des membres de clubs de tir, des pilotes moto, car on avait noté aussi l'habileté de conduite du tueur au scooter, noté aussi et surtout sa très grande détermination, insiste le témoin. Les enquêteurs finissent par retrouver le propriétaire du scooter volé, mais le véhicule reste impossible à localisé, Mohamed Mera a désactivé le système de tracking qui permet de le faire. Le 19 mars, à bord du même scooter, mais en partie repeint, le tueur s'arrête devant l'école aux Aratora. Ce jour-là seulement, le parquet antiterroriste est saisi. Le terrorisme islamiste vient aussi de marquer son retour en France.
Florence Thiam, merci beaucoup. À l'instant, le prix Nobel de chimie attribué à 3 chercheurs, Jacques Dubochet qui travaille à l'Université de Lausanne, Joachim Frank de Columbia, donc aux États-Unis, et Richard Anderson à Cambridge. Travaux sur la cryomicroscopie électronique qui a simplifié et amélioré l'imagerie des biomolécules. Cette méthode a fait entrer la biochimie dans une ère nouvelle, souligne l'Académie royale des sciences dans un communiqué. Ensoleillé et calme, c'est le menu météo pour cet après-midi. Midi, des maximales stationnaires entre 15 et 26 degrés. Édition réalisée avec Yacine Bouzard. Le prochain journal est à 18h avec Aurélie Kiffer.